Chapitre 11.
Il est assis derrière un journal, jaillit de son fauteuil en m'apercevant. « Tout va bien, Martin. J'ai toutes les preuves qu'il faut. » Il s'arrête, coupé dans son élan, me dévisage avec alarme. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je le fixe, cherche à deviner ses motivations, à déceler l'indice d'un double jeu. Rien, de la franchise, du dynamisme et de l'anxiété de Boy Scout. Regard juvénile, front dégarni, main sur l'épaule. « Bon, vous allez tout me raconter. » Je m'assieds, il réintègre son fauteuil, penché en avant, le front plissé par mes ennuis. J'ai tellement attendu ce moment, être authentifié par un de mes proches. Et pourtant, un malaise m'empêche de me livrer à cet homme à peine plus jeune que moi, dont le respect et la servilité de façade me paraissent plus artificiels que jamais. Il intrigue depuis des années auprès du doyen pour préparer ma succession, et ce matin il débarque en sauveur, avec son témoignage et ses pièces à conviction. Je cherche une mallette autour de lui. « J'ai loué une voiture à l'aéroport, » dit-il en devançant ma question. « Je suis passé chez un ami prendre une douche et mettre les documents à l'abri. » Le barman s'est approché de nous, le laisse finir sa phrase avant de nous demander ce qu'on désire. Rodney le renvoie avec une autorité que je ne lui connais pas. « Vraiment, enchaîne-t-il, Elisabeth prétend que vous n'êtes pas son mari ? Mais comment vous l'expliquez ? » Je lui ai parlé seul à seul, hier matin. Le type qui se fait passer pour moi l'oblige à mentir. Il l'a fait chanter ou elle est complice, je n'en sais rien. Madame Caradé ne m'en a pas parlé ? Je n'ai pas tout dit à Madame Caradé. Mais c'était déjà trop, on vient de faire sauter sa voiture. Il sursaute, reste bouche bée. On veut notre peau, Rodney. Ça s'est passé quand ? Il y a une heure. Elle s'en est tirée ? J'acquiesce. Elle a foncé récupérer son fils à l'école et sa fille au salon de coiffure. Ils sont chez une amie en lieu sûr. Je lui interdis d'utiliser son portable. « Je ne peux pas croire que Monsanto s'en prenne à vous de cette façon » proteste-t-il. Apparemment, Muriel lui a fait un rapport complet. « Rodney, quelqu'un est au courant de votre arrivée à Paris ?»« Un ami ?» dit-il en baissant les yeux. « Qui ça ? L'ami qui m'héberge ici ?» Vous répondez de lui ? Geste vague, petite moue. Il est célibataire, je ne lui connais pas de liaison, mais je ne me suis jamais intéressé à sa vie privée. Vous lui avez parlé de ce qui m'arrive ? Non, j'ai dit que je venais prêter main forte à mon patron qui a des problèmes, c'est tout. Je n'existe plus, Rodney. Ils m'ont fait disparaître des registres de l'état civil. Ils ont rayé mes parents, mon mariage. Ils font croire que le Martin Harris de Yale est mort depuis 3 ans et que mon numéro d'assuré social est celui d'un électricien du Kansas. Mais c'est dingue. Ou alors c'est le détective que j'ai engagé. Peut-être qu'ils l'ont payé pour me raconter tout ça. « On y va, » décide-t-il en se levant. Devant le Sofitel, des barrières métalliques empêchent les voitures de stationner. Des gardes postés tous les 20 mètres dans l'avenue des Ternes, un cordon rouge sur la poitrine, attendent un cortège officiel. « Le président arrive à 15 heures, » me glisse Rodney en traversant. « Auriez vu les mesures de sécurité à l'aéroport. Toute la ville est sur les dents. » Sous-entendu, mon problème personnel tombe mal. J'ai bien vu à Clichy l'impatience agacée des flics autour des débris du taxi. Une bagnole incendiée dans une cité chaude, en ce moment, ils n'ont pas que ça à faire. Je les ai laissés conclure au cocktail Molotov. Je n'allais pas me faire embarquer pour interrogatoire en leur soufflant l'idée d'une bombe reliée au démarreur. Je marche 3 pas derrière Rodney, jusqu'à une petite rue perpendiculaire au boulevard périphérique. Je me retourne à chaque instant. Dévisage les passants, vérifie les renfoncements, les porches, les voitures. Il m'ouvre la porte d'un monospace. Je le regarde démarrer. On se dirige vers la banlieue, entre les lampadaires garnis de drapeaux entrecroisés. Il me jette des coups d'œil à la dérobée, en feignant de consulter son rétro. Je ne crois pas qu'il ait des doutes sur moi, mais on dirait qu'il essaie de savoir si j'en ai sur lui. « Je vous admire, Martin, » déclare-t-il en traversant un pont. « Pourquoi ? Votre sang-froid. Madame Caradé m'a raconté votre accident, votre coma, et moi je vous retrouve exactement comme avant. C'est vrai. J'ai beau être lucide sur ses flatteries, sa réflexion me touche d'autant plus qu'il se trompe. Je n'ai plus rien de commun avec cet homme renfermé qui fuyait sa vie dans les plantes, cachait les déceptions humaines sous les passions végétales. Mais j'ai trop souffert du regard des autres pour cesser de faire semblant. Qu'avez-vous dit à la police exactement, Martine ?
Qui j'étais ? Mais l'autre est arrivé avec son passeport à mon nom et ils ont effacé ma plainte. Il faut tout reprendre de zéro, en incluant les tentatives de meurtre.
Qu'est-ce qu'on a comme preuve que je suis moi ?
Des reportages sur vous, la cassette de votre interview à CBS, votre carte de parking à Yale, votre diplôme honoris causa de l'université de Bamako, des feuilles d'impôt, des notes de téléphone, des remboursements de frais, la photo de vos parents, tout ce que j'ai trouvé dans votre bureau.
Je fronce les sourcils. La photo de mes parents.
Et celle où vous êtes avec Lise, oui.
Je hoche la tête, en continuant de vérifier dans le miroir du pare-soleil que nous ne sommes pas suivis. Je n'ai aucun souvenir de photos personnelles dans mon bureau. Il a dû fouiller de fond en comble.
On arrive bientôt.
Il a quitté l'avenue embouteillée, roule dans un quartier résidentiel où les chantiers alternent avec de vieux pavillons en meulière, plus ou moins délabrés. Ce décor me dit vaguement quelque chose. Un souvenir remonte, mais n'arrive pas à se préciser. Je ne sais pas où le situer, ni à quoi le relier. On dirait que ma mémoire travaille à vide, ou qu'elle bute sur un obstacle.
On se connaît depuis quand, Rodney ?
Longtemps, sourit-il. J'aimerais qu'il soit plus précis, mais il a l'air de vouloir esquiver par délicatesse les trous dans ma mémoire alors que je suis en train de tester la sienne. Quelque chose en lui ne fait pas vrai, je ne sais pas quoi. J'ai la même impression qu'avec Lise hier matin. Pourtant, je le connais par cœur. Je me demande pourquoi j'éprouve ce réflexe de défense, ce recul bizarre.
Vous êtes allé à l'ambassade ?
Je réponds que je me suis fait jeter.
Et votre collègue de l'INRA, vous ne l'avez pas recontacté ?
Non, il croit à l'autre. J'ai guetté ses réactions du coin de l'œil. Il paraît soulagé. Mais c'est peut-être simplement l'optimisme qu'il affiche pour me remonter le moral. La voiture s'engage dans un rond-point, tourne à gauche, roule encore 100 mètres dans une ruelle en pente.
« On y est !»
dit-il en actionnant le boîtier d'une ouverture à distance. Le monospace franchit un portail recouvert d'une glycine jaunie. Mon regard tombe sur le pilier en pierre fendue où s'inscrit le nom de la villa. Les feuilles bleues. Une onde de choc se répercute dans mon crâne, comme un barrage qui cède au ralenti. Un paysage entier qui se recompose. Je ferme les yeux, cale ma nuque sur l'appui-tête, laisse les images se mettre en place.
Ça ne va pas, Martine ?
Si, si, un petit coup de barre, mais ça ira. Il se tait. Je rouvre les yeux, reconnais l'allée de gravier sous les tilleuls, le perron à verrière devant lequel il se gare, la moto attachée à un saule.
C'est drôle ce nom, les feuilles bleues, dis-je avec le sourire dégagé de celui qui vient pour la première fois. Ça se rapporte à quoi ?
Je ne sais pas. C'était peut-être la maison d'un écrivain dans le temps.